Bon, alors pour démarrer cette dernière demi-journée, enfin on finit à 15h, de cette formation de formateurs, en fait on voulait vous parler du programme Performance, qui est un programme français pour la formation continue des enseignants. Et je pense que peut-être qu'on pourrait réfléchir à utiliser ce qui est proposé dans Performance plutôt dans la formation, parce que vous allez comprendre que ça oblige à expliciter certains aspects que finalement on ne sait peut-être pas aussi bien expliciter quand il s'agit de formation des enseignants. Donc le programme Performance, c'est un programme national initié par la SDT, ça veut dire une sous-direction d'un ministère qui s'occupe des technologies, et qui a conçu et mis en œuvre un dispositif assez innovant pour la formation continue des enseignants. Donc il ne s'agit pas de formation initiale, il s'agit bien de travailler avec les enseignants déjà en poste, qu'ils soient du primaire ou du secondaire. Et l'idée est d'aider ces enseignants à construire des compétences qui leur permettent d'intégrer les TIS dans leur pratique professionnelle et de voir quand même émerger une réelle pratique des TIS en classe avec les élèves. Et comment ce projet se propose de faire bouger les choses ? C'est en réalisant des parcours de formation. Et les parcours, on peut avoir une première idée que c'est des scénarios qui proposent des activités et des ressources implémentées sur une plateforme nationale pour le travail à distance. Donc il y a une plateforme, donc un outil technologique qui a été mis en place, mais c'est pas uniquement l'outil, le programme Performance, ça désigne aussi toute l'organisation qui est autour des formations pour que cet outil soit effectivement utilisé. Et donc les objectifs, donc il s'agit de formation continue des enseignants, et les objectifs qui sont affichés, c'est le plus gros, celui dont on parle quand on parle de performance, c'est intégrer les TIS dans les pratiques, passer, et plus explicitement passer d'un usage personnel des TIS que à peu près tous les enseignants pratiquent, ils ont pratiquement tous maintenant un ordinateur, ils utilisent le mail, ils surfent sur internet, ils écrivent des fiches pour leurs élèves avec un traitement de texte. Par contre, qu'est-ce qu'ils font en classe avec leurs élèves, avec les TIS ? C'est beaucoup plus variable et il n'y a pas de discipline. Performance, ça s'adresse toute discipline primaire, secondaire. Ensuite, amener derrière l'idée d'utilisation des TIS, il y a souvent l'idée, mais c'est pas forcément réduit l'un à l'autre, d'adapter la pédagogie à la diversité des publics. Et puis développer des attitudes de travail en réseau chez les enseignants. Et vous avez noté dans les réponses au questionnaire que la préparation collaborative de séances ou le travail avec les collègues n'était pas très répandu. Et donc c'est aussi un des objectifs de formation. Et j'ai rajouté développement professionnel. On n'a pas du tout discuté cette distinction, s'il y a lieu d'en avoir une. Dans le discours anglo-saxon, on parle plutôt de teacher training, c'est un peu hard pour nous, et professional development, c'est plus utilisé. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que ça l'est pas ? Bon. Derrière, maintenant ça, c'est les objectifs de formation. Et derrière, il y a des principes sur comment on doit faire pour atteindre ces objectifs. Et ces principes sont, on ne développe pas ses compétences professionnelles tout seul dans son coin. Il faut collaborer avec les autres collègues, et ça va être un des moteurs, des moyens de se former. La deuxième chose explicite, c'est la conception. Au cours de la formation, on conçoit et on teste ce que l'on a conçu en classe. Et donc ça, c'est quelque chose qui est éventuellement déjà présent dans pas mal de systèmes de formation qu'on a vu en formation initiale ou qui existent, qui sont affichés en formation continue, mais c'est pas toujours possible parce que quand on voit les enseignants deux jours où ils retournent pas dans leur classe, donc c'est pas mis en œuvre. Et la dernière chose, c'est la formation en présence et à distance. La formation n'est pas réduite à, même ne serait-ce que comme nous, une semaine bloquée tous ensemble. Il y a des moments où on est chez soi, revenu dans son établissement, on travaille à distance, mais on continue à faire partie d'un groupe. Donc ça, c'est des principes pour la formation. Et enfin, un outil technologique qui doit supporter ces idées de formation et leur mise en œuvre, c'est une plateforme. Pour ceux qui sont un peu branchés techniques, c'est une plateforme Moodle. Pour les autres, si ça vous dit rien, ça n'a aucune importance. Mais par contre, il y a une adresse que vous pouvez noter et aller visiter. Et je vais pas tout de suite à ce transparent, mais on va aller regarder avec une entrée. Je vous la redonnerai si vous voulez. Ça s'appelle national.performance.education.fr. Performance, pour ceux qui parlent français, écrit avec AIR, ce qui est la référence au fait qu'on se forme entre pairs. Alors, au centre de cette idée et de ce dispositif performance pour former les enseignants, pardon ? Je parle plus vite que vous n'écrivez. Vous arrivez à voir ? Le vert clair, c'est pas top ? Excusez-moi. Ça, c'est toujours à l'écran, c'est bien, et projeté, ça va. Et voilà. http://national.performance.education.fr. Donc, au cœur du dispositif, il y a des formations pour les enseignants qui articulent à distance, en présence, avec des contenus relatifs au TIS. Il faut aller tester dans sa classe et en faire quelque chose. Et comment c'est soutenu et organisé avec des outils, c'est les parcours de formation. Et un parcours de formation, c'est beaucoup de choses. C'est un peu, voilà. Donc, il faut que je passe un peu de temps pour vous expliquer. C'est par exemple 7 étapes. Et ces parcours qui sont proposés en ligne, ils permettent de bâtir une formation. C'est une ressource pour le formateur pour dire je vais faire une formation et je vais utiliser ce que je trouve. Mais c'est aussi un outil qui est utilisé en formation avec les stagiaires enseignants qui utilisent le parcours. Donc c'est 7 étapes. Je reviens au transparent dessus, je vous les détaille. C'est des ressources, les parcours rassemblent des ressources. Alors ressources, c'est aussi un mot valise, on peut mettre plein de choses, mais en gros des documents, des fiches à imprimer, des liens vers des sites de ressources, des liens vers des bibliographies. Donc des ressources, ça peut être toutes ces choses-là que vous mettez dans votre cartable quand on part en formation, qu'on photocopie, qu'on distribue, qu'on donne comme indication. Il y a tous ces objets-là. Mais c'est pas que ça. Ça doit aussi être les activités pour les stagiaires. Qu'est-ce que font les stagiaires enseignants à tel moment ? Qu'est-ce qu'on attend qu'ils fassent ? Puis après, on peut se demander s'ils ont fait, s'ils n'ont pas fait, tout ça. Et puis, du coup, si c'est des ressources avec des contenus, par exemple, moi, sur la géométrie dynamique, je pourrais mettre mes petits fichiers Cabri, je pourrais mettre des documents à lire pour comprendre qu'est-ce que c'est la géométrie dynamique. Mais je vais aussi avoir envie et besoin de mettre des outils pour soutenir la collaboration en présence et à distance. Donc, dans le parcours, il y a aussi des outils de collaboration, tels que des forums, sur lesquels les stagiaires vont pouvoir écrire, poser des questions. Il y a, je vais vous en montrer dans les parcours. Donc, il va y avoir des outils pour que la collaboration qu'on a pu à un moment vivre en présence puisse continuer avec des outils soutenus à l'intérieur de la plateforme quand chaque enseignant est rentré dans son établissement. Et puis, c'est des ressources et des outils méthodologiques pour le formateur qui anime la formation. Parce que vous avez commencé, je regarde les collègues qui ont travaillé sur l'institutionnalisation, mais on voit bien là qu'il y avait une fiche qui était pour le formateur, qui avait rien à faire pour le stagiaire et qui était, je vais commencer par leur faire faire, ou sur le son, leur faire faire ça, ce type d'activité. Il y a des bouts qui sont écrits dans le parcours, puis il y a des bouts qui sont plutôt des indications pour le formateur qu'est-ce que tu dois attendre de cette activité, sur quoi tu peux t'appuyer et comment tu vas continuer. Ou par exemple un calendrier, parce que on a cette étape dans un parcours, et quand on lit ça, on se dit, ah ben super, on va commencer par l'étape 1, on va finir à l'étape 7. C'est en gros ce qui se passe, mais au milieu, finalement, ça se mélange. Et il peut y avoir besoin, et en fait, nous on considère que c'est complètement utile, qu'il y ait un calendrier, c'est-à-dire que votre formation, elle va démarrer, par exemple, avant le premier rendez-vous en présentiel, en faisant ça, 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 et elle va terminer à tel moment, avec telle chose, mais l'utilisation de l'étape 3, c'est peut-être pas exactement au 3/7 de la formation en temps, par exemple. Alors, la première étape, c'est l'entrée dans la formation et l'appropriation du principe. Alors, j'ai mis du principe, ça doit être un copier-coller. En fait, c'est des principes. Vous vous rendez compte que se former en collaborant avec les autres collègues, c'est pas forcément évident. Se former en travaillant en partie à distance et que c'est pas fini quand on quitte la porte de la salle où on a travaillé une journée, c'est pas évident. Et l'expérience montre que les collègues qui s'inscrivent dans ces formations, pas forcément, même si c'était écrit, ont pas forcément vu de quoi il s'agissait. Et pour le formateur, il faut... Qui c'est qui parlait d'argumenter, d'expliquer ? Il faut convaincre et réexpliquer pourquoi c'est intéressant et qu'ils ne sont pas là par hasard qui vont en tirer parti. Donc adhérer aux différents principes et au fait qu'on élabore une situation pédagogique, qu'on la teste dans sa classe. Ensuite, il y a une étape où puisqu'il s'agit de collaborer à la conception de séances, il faut former des équipes d'enseignants et choisir les contenus sur lesquels ces séances vont être construites. Puis il y a une étape qui est de l'auto-formation et de la co-formation avec développement de compétences qui peuvent être, on pense tout de suite avec les technologies à des compétences très techniques. Utiliser un tableau blanc interactif dans sa classe, bah, c'est aussi lire la doc, commencer à tester le pointeur, enfin voilà, toutes ces choses-là. Ça peut aussi être des ressources beaucoup plus théoriques sur la pratique du problème ouvert et d'aller faire référence, d'aller lire ces textes. Donc il y a des ressources et un moment de formation qui peut être fait tout seul quand on est chez soi ou avec les collègues. Ensuite, il y a l'étape de production effective d'une situation à tester en classe, puis l'étape de sa mise en œuvre dans la classe et je vais marquer la dernière étape, le retour en formation de discussion sur qu'est-ce qui s'est passé en classe et comment, à partir de ce qui s'est passé en classe, je peux revenir et considérer la conception, éventuellement les objets théoriques que j'avais mis en œuvre dans ma conception de séance. Et enfin, l'étape qu'on va pratiquer tout à l'heure, évaluation de la formation en prenant en compte tous les aspects, c'est-à-dire comment s'est déroulé le travail collaboratif, quelles compétences ont été acquises ou pas, et évaluation aussi du parcours tel qu'il est proposé pour savoir s'il faut modifier des choses. Donc, pour moi, là, c'est la partie, je vais vous emmener sur un parcours pour essayer de vous le présenter au moins un peu plus concrètement ce qu'il y a dedans. Et c'était le bout où je me dis que regarder précisément ce qui est dans performance et qu'est-ce que ça peut vouloir dire de concevoir un parcours performance, ça peut être utile dans une formation comme celle que vous venez de vivre parce que ça oblige à expliciter. Donc d'abord à se mettre d'accord avec soi-même sur ce qu'on veut faire ou avec le groupe avec qui on travaille, sur ce qu'on veut faire dans cette formation, c'est quoi, et d'écrire noir sur blanc. Et puis du coup, de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont pas si claires et puis qu'il y a des choses où on sait comment faire mais en fait on l'a jamais écrit et du coup c'est pas si simple. C'est quoi les objectifs de la formation? Au-delà des objectifs généraux de tout parcours performance, celui que je vais vous montrer c'est maths en poche, utiliser un logiciel pour différencier son enseignement, donc être beaucoup plus précis sur les objectifs et peut-être pas en mettre une quantité trop importante parce que finalement on n'y arrive pas. Et les moyens. Et c'est pas tout à fait pareil de dire... par exemple, moi j'ai vu souvent en fait une confusion ou un mélange de objectifs et moyens. Le faire concevoir une situation pédagogique et tester en classe, pour moi c'est un moyen pour amener un développement professionnel des enseignants sur un objectif particulier. Mais on peut le lire aussi comme un objectif. L'objectif de la formation c'est de vous faire concevoir et que vous testiez en classe. Mais du coup, si on fait ça... Et si on dit les choses comme ça, et ben en fait, on perd peut-être de vue quel était l'objectif et comment on va pouvoir l'évaluer et puis si on l'a obtenu, enfin on y est arrivé ou pas. Et je pense que dans la formation de cette semaine, et ben on n'a pas bien différencié les objectifs et les moyens. Et je dirais c'est pas très grave parce que finalement dans performance, moi ce qu'on a vu, c'est que aussi la plupart du temps c'est confondu. Ça veut dire que c'est une difficulté. Puis des fois, après, on va faire l'effort de différencier, mais en fait, les moyens permettent pas du tout d'atteindre les objectifs. On a bien affiché les choses clairement, mais il faudrait analyser pour être sûr que ça s'ensemble. Ensuite, c'est expliciter des ressources. Donc, c'est mettre en forme des documents qu'on utilise déjà, mais aussi peut-être qui sont beaucoup plus informels, qui passent par le discours, et puis que comme il y a une plateforme et quelque chose d'écrit, alors il va falloir l'écrire, et quand on l'écrit, ben, on se pose éventuellement des questions. Je me permets de dire ça oralement, est-ce que je l'affirme par écrit dans un document qui va pouvoir être diffusé et regardé? Donc ça pose la question des ressources, des questions de droit aussi. J'utilise cette super activité Cabri Pagiron avec la voiture. Vous êtes en formation, je vous le file, vous l'utilisez. Vous commencez à le mettre en ligne, ça m'ennuierait qu'il n'y ait pas la référence au projet et derrière aux gens qui l'ont conçu et que voilà ce soit. Et on peut pas aller coller les trucs qu'on utilisait. Donc ça pose des questions. C'est pas du tout notre domaine, mais concrètement, quand on a conçu des parcours, ça pose la question. Ça pose d'expliciter les activités proposées aux enseignants. On fait quoi, à quel moment, et c'est quoi l'activité réelle, au-delà des objectifs et de concevoir une séance, de ce qu'on attend en atelier, comment on vous a donné des consignes, quelles activités on imaginait que vous alliez faire, qu'est-ce que vous avez fait en vrai, est-ce qu'on était suffisamment clair ou pas, est-ce qu'on était clair avec nous-mêmes. Donc, et ça, c'est une difficulté aussi. Enfin, tout est difficile, hein, mais bon. La gestion, proposer des choses sur la gestion des interactions entre enseignants en présence et à distance. Et là, la plupart du temps, on n'a pas de compétences sur l'enseignement à distance. En tout cas, les gens qui ont conçu les parcours sont des formateurs, la plupart, je le dis plus tard, mais c'est des formateurs qui ont une pratique reconnue de formation continue des enseignants en France, qui proposent des parcours et qui se posent à un moment la question de qu'est-ce que ça veut dire qu'en plus, il faudra gérer de la collaboration à distance. Et puis, les différentes tâches du formateur. Être explicite sur les tâches du formateur, c'est pas juste de dire aux enseignants de faire ça et ça. Éventuellement, il y a d'autres choses à faire. Et avec les technologies, il y a des choses aussi très bêtes, techniques. Si vous voulez utiliser Math en Poche Réseau, il faut récupérer les adresses académiques pour inscrire et demander à votre responsable local d'inscrire vos... Voilà, donc il y a des choses comme ça, mais s'il y a un parcours de formation un peu efficace, il y a aussi ces choses-là qui sont dites. Et on a passé, Yana a passé beaucoup de temps à régler tous ces problèmes de avoir tout le monde, les adresses, les inscriptions et les... Ça fait partie. Voilà, une formation à distance et un parcours, il prend en compte et il essaye d'aider et de soutenir l'activité des gens qui vont l'utiliser à travers tout ce panel de tâches. Donc je vous propose d'aller voir un parcours de formation en mathématiques qui est enrichir ses pratiques pédagogiques et différencier son enseignement en intégrant Math en Poche Réseau. Je suis un peu à l'aise pour y aller parce que je l'ai regardé, mais c'est pas un truc conçu par nous, c'est des collègues de l'IREM de Nancy ou de Lorraine, je sais plus. Voilà. Et peut-être vous montrer. Alors, je reviendrai sur l'articulation, l'organisation de la plateforme nationale. C'est une structure assez complexe, donc je vais pas vous perdre tout de suite. Mais si vous allez avec l'adresse que je vous ai donnée, vous êtes là. Vous voyez que moi, je me suis déjà connectée et je suis... j'ai plusieurs rôles en plus. Et là, j'ai une série de menus qui vont plus du tout être ceux que je vais vous montrer quand je vais être allée sur mon site. Et je reviendrai après. Mais là, mon site, moi, c'est celui de la formation et du FC. Et puis voilà, vous oubliez tout ce que je fais et j'arrive à mon parcours. Voilà, alors mon parcours, la première... Vous voyez sur la gauche, c'est bien la gauche, oui. Les étapes, introduction de choix des formations, et je peux aller tout de suite à l'étape 4. Et voilà, j'ai pas tellement répété comment j'allais vous faire ma petite démo, donc j'avais pas pensé que je tombais là-dessus tout de suite. Mais je vous montre, il y a un encart qui s'appelle conseil de pédagogie. Et là, c'est un conseil qui est donné en fait pour le formateur. C'est une lecture méta de cette étape 4 de production collective d'une séquence à destination du formateur en lui disant. Tiens, regarde, des apports théoriques sur les usages des TIS. Le formateur se doit d'apporter des éléments théoriques sur les usages des TIS et propose des articles, et des articles en ligne, des revues. Là, c'est juste une liste de sites. Et on imagine que le concepteur, il s'est dit que ça, c'était pas à donner aux enseignants direct et que c'était plutôt pour le formateur pour s'outiller. Après, moi, je peux me mettre prendre le rôle du stagiaire pour voir ce que voit le stagiaire. Et lui, il arrive sur la réalisation. Il s'agit maintenant de préparer votre séance personnelle. Pour cela, vous avez consulté des exemples et disposé de fiches d'aide. Voilà. Et ainsi que d'une riche cytographie. Et puis, on voit que j'ai des documents que je peux télécharger, d'une procédure et une réflexion. Et ici, alors je vais pas tout vous lire, Et ici, j'ai un outil pour déposer les séquences pédagogiques. Donc, par exemple, j'ai un accès avec une base de données dans lequel les groupes d'enseignants qui fabriquent une situation vont pouvoir la déposer, la récupérer, travailler à plusieurs sur une même situation. J'ai un forum, j'ai d'autres outils. Je vais pas tout vous. Je me suis fait une liste de ce que je voulais vous montrer. Alors, si je vais à l'introduction. Non, plutôt à l'accueil. Alors, il y a des problèmes encore d'ergonomie complètement fous. L'information sur le parcours. Donc, une première espèce de carte de visite du parcours où, en France, il y a un certificat Internet et informatique au niveau 2 pour les enseignants qui liste un ensemble de compétences et le parcours donc donne ses objectifs et... Donc, qui est différencier l'apprentissage des élèves, faire acquérir de l'autonomie aux élèves, intégrer les outils, et puis la liste des compétences qui vont être développées et qui pourront être normalement certifiées en mathématiques. Ensuite, donne des éléments sur l'activité qui sera à produire pendant la formation, et enfin, une partie sur les auteurs. Donc ça, cette carte, elle est accessible dans un catalogue national. Quand on cherche un parcours, on peut avoir au moins, avant d'être inscrit dans le parcours, avoir accès à ces informations. Ensuite, je vous ai montré les notes pédagogiques. Elles sont pas forcément très développées. J'ai pris ce parcours parce qu'il en existe. Et en fait, la plupart des parcours n'ont pas de notes pédagogique, c'est-à-dire de notes à l'intention du formateur sur quel est ce qui est attendu dans cette étape, par quoi doivent passer, quel type d'activité doivent passer les enseignants. Et ensuite, ce parcours, il avait ça aussi d'intéressant, c'est que il faut que je retrouve dans quelle étape, j'ai pas noté si précisément. Il y a des endroits où, à travers des activités, par exemple, voilà, il propose en second lieu, vous pouvez vous baser sur des exemples pour faire ci, il donne des exemples. Et il y a des endroits où il pointe en faisant ça, vous allez développer telle compétence. Donc il y a un effort dans le parcours d'expliciter à certains moments le lien entre ce qui est demandé de faire à l'enseignant et quelles sont les compétences professionnelles qu'il va pouvoir développer. Donc dans un parcours, bon, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il faut bientôt que je m'arrête, mais dans un parcours performance, il y a un effort et il y a la possibilité d'expliciter beaucoup d'éléments de la formation, des contenus, mais quelle est l'activité prévue chez les enseignants, quels sont les objectifs en termes de développement professionnel et éventuellement quelles sont les compétences et leur intitulé qu'on va pouvoir évaluer et relier à ces objectifs. Donc je pense que ça donne un cadre sur beaucoup de questions qui a à se poser quand on met en place une formation et en fait ça soulève aussi beaucoup de difficultés quand on veut le faire effectivement. Une hypothèse implicite au cœur du dispositif, c'est le fait que on fabrique des parcours, ils sont en ligne et d'autres personnes vont pouvoir les utiliser. Donc on peut mutualiser les formations. Chaque formation n'est pas liée au formateur qui l'a mis en place et uniquement à lui. Donc il est possible de concevoir des parcours de formation qui seront utilisés par d'autres, des formateurs et des enseignants pour élaborer et mettre en œuvre des formations. Je la dis implicite parce qu'elle n'est pas écrite si on lit le programme. Et en fait, elle pose des difficultés. C'est pas si simple d'aller récupérer la formation élaborée, conçue à partir de ce qui en est donné par quelqu'un d'autre. Et on voit, c'est les différents acteurs qu'il y a dans Performance. Il y a un concepteur de parcours qui n'est pas le formateur, ou a priori pas le formateur. En fait, ce qui se passe, c'est que les concepteurs de parcours sont initialement des formateurs qui ont dit. Moi, ça fait 10 ans que je fais de la formation sur tel thème. Leur inspecteur leur dit, voilà, ou je sais pas comment ça se passe, c'est un peu informel. Je vais proposer un parcours. Puis il se met à développer cet objet informatique avec tous les morceaux à remplir, avec des grilles, il y a des guides du concepteur. Et puis, dans la deuxième étape, ce qui se passe encore énormément, cette année, c'est encore en train de changer, c'est que c'est lui-même qui réutilise son parcours. Donc, s'il y a des choses qui sont restées implicites, il se débrouille avec lui-même. Et dès qu'on a pu avoir des formateurs qui n'étaient pas les concepteurs initiaux, alors là, ça soulève énormément de questions et de difficultés. Et puis, le parcours, il était pensé dans une version quand même tout aux prémices de performance comme étant presque quelque chose que pourrait utiliser un enseignant. C'est-à-dire, l'enseignant, il va dans la plateforme, il s'inscrit au parcours, il prend 2 collègues dans son établissement, puis ils se forment tous les 3 ensemble. Et en fait, on se rend compte que c'est pas utilisable, parce qu'en fait, on risque trop de les effrayer, et que, à part quelques personnes, c'est pas un outil qui peut être approprié comme ça. Et donc, il y a la nécessité d'avoir le formateur qui anime, qui organise, qui maintient l'implication des gens. Alors, du coup, on observe des difficultés d'appropriation. Dans les formations de formateurs, on a mis en place pour aider les formateurs à utiliser parcours performance des formations de formateurs. Donc là, je vous ai mis un panel de questions qui arrivent. C'est jusqu'où on peut adapter un parcours sans le dénaturer. En fait, il y a l'idée, et elle est interne même au dispositif, c'est que le formateur qui récupère un parcours, il va devoir changer des choses, adapter des choses à son contexte, au nombre de stagiaires qu'il a, au niveau de ses stagiaires, dans la discipline, dans l'usage des technologies, au logiciel qu'il a de disponible ou à l'évolution des logiciels. Le parcours, il a été fait il y a 1 an et demi. Il y a déjà sur Google Earth, je sais pas, sur des parcours qu'on a vus, il y a déjà des évolutions technologiques qui posent la question de comment je change cette ressource, est-ce que je l'utilise, comment je change juste le nom, qu'est-ce que je fais, où il faut me mettre à jour complètement. Jusqu'où doit-on suivre le déroulement d'un parcours et quelle marge pour l'adaptation ? C'est un peu la même chose, mais il y a aussi là, les enseignants, ils sont inscrits en formation à un parcours qui a une carte et qui dit des choses. Le formateur, il a pris ce parcours pour l'utiliser, et puis s'il s'en écarte trop, il est en décalage par rapport éventuellement aux attentes des gens qu'il est en train de former. Donc, il y a aussi cette gestion-là à faire. Est-on lié par le droit d'auteur et jusqu'à quel point ? Ça veut dire, est-ce que je peux modifier, réutiliser, modifier, distribuer ? Est-ce que le parcours, c'est celui du concepteur ou c'est quelque chose que je peux réutiliser et adapter, moi ? Et comment je fais quand on se sent bridé ? En comparaison par rapport à son expérience de formateur. Parce que, alors, je vous expliquerai pourquoi cette question est là. Vous me direz, ben, s'il a pris le parcours et qu'il se sent pas en harmonie, il fallait pas le prendre. Mais en fait, les choses se passent de façon plus complexe. Et puis, on peut se retrouver, ça paraissait bien. Puis quand, au fur et à mesure, on fait, il y a des choses qu'on n'avait pas vues parce qu'un parcours, c'est très riche. Et on peut se retrouver avec une ressource, surtout quand il y a plusieurs disciplines qui est peut-être pas celle de sa discipline. On se retrouve à faire comme notre prof hier, à parler de réfraction au lieu de réflexion. Et voilà. Bon. Et comment on fait évoluer le parcours concrètement? Parce que si on l'utilise, on l'adapte. En fait, il change. Et concrètement, comment ça peut se passer? Alors, il y a des choses qui existent. C'est que la plateforme, c'est pas les formations. Et en fait, les parcours sont fabriqués. La plateforme, c'est des parcours, mais les parcours, quand ils sont pris pour faire une formation qui va durer 2 mois, on se rend bien compte que la formation, elle peut pas s'écraser sur juste ce qui est dans le parcours. Il y a toutes les activités, tout le déroulement. Donc, le parcours, il est conçu dans une fabrique au niveau de la plateforme. Le parcours est ensuite affiché, tous les parcours qui sont validés à la sortie de la fabrique sont affichés dans un catalogue national. Et de ce catalogue national, pour que ça devienne une formation, en fait, il faut que dans une académie en France, les formations continues des enseignants sont affichées dans un plan académique de formation. Et donc, il faut qu'un parcours soit choisi par un formateur ou par une équipe, alors après d'inspecteurs, soit retenu pour dire, sur ce parcours, on va faire une formation cette année. Donc, on affiche la formation dans le catalogue, le PAF, le plan académique de formation, qui est distribué dans les établissements et que dans lequel les enseignants font leur sélection. Donc, c'est là qu'on se retrouve avec un parcours qui a été affiché dans le plan académique de formation, un formateur qui passe, qui dit, toi, tu fais la formation sur la géométrie dynamique, là, tu vas faire cette formation-là, mais derrière, il y a performance. Le formateur, il est peut-être au courant, mais les stagiaires, ils ont peut-être pas bien vu. Et donc, on se retrouve avec des décalages. Et au moment où le formateur va faire la formation, les parcours qui sont retenus pour les formations sont à ce moment-là transférés depuis la plateforme nationale dans les plateformes académiques et sont clonés. C'est-à-dire que le formateur, il n'utilise pas l'objet informatique qui est sur le catalogue national, il en utilise une version qui est dans son académie, qui est pour lui, et là qui peut complètement, dans une très grande mesure, modifier. Donc une ressource qui lui plaît pas, il l'enlève, il en met une à lui, et il peut bidouiller, mais il a une matrice et une proposition à la base. Et après, la dernière, donc c'est mis en œuvre localement, ça permet d'adapter au contexte, et à beaucoup de contraintes que rencontre le formateur. Et puis ensuite, on peut se dire, de ce qui a été fait dans l'académie, ça peut être intéressant éventuellement de le faire remonter nationalement. Parce que tout simplement pour ajouter dans un parcours qui est au catalogue national, dire il a été utilisé en 2007-2008 dans telle académie, comme ci, comme ça, avec telle difficulté ou tel aspect positif. Et c'est dommage de perdre ça. Donc voilà, il y a une espèce de boucle. J'ai fini. Sur le rôle de l'INRP dans performance, je vais pas aller beaucoup. Performance, c'est pas l'INRP. Moi, je vous le présente parce que l'INRP a contribué de façon assez forte, impliqué de façon assez forte dans performance, parce qu'on a animé un groupe de chercheurs, d'enseignants et d'autres, de formateurs, qui ont conçu des parcours, pas celui que je vous ai montré, mais d'autres, en maths, en géologie, en histoire-géographie et il y a la physique, il y en a un qui est en cours de conception. J'oublie une discipline, il y en a une autre. C'est pas, bon, aucune importance. On a fait de l'expertise sur les parcours, c'est-à-dire qu'il y avait une évaluation des parcours et on a participé à cette évaluation. Une expertise sur le dispositif, on a essayé d'avoir un regard réflexif sur tous les aspects du dispositif, donc l'évolution de la plateforme pour qu'elle permette effectivement de supporter d'aider les activités qui étaient prévues. Et puis, un projet de recherche qui a commencé en 2007, avec le premier objectif, c'était l'étude des processus de conception de parcours. L'année dernière, on a étudié les conditions d'appropriation des parcours par les formateurs. Et cette année, on essaye de regarder l'évolution des pratiques des enseignants en formation. C'est un projet de recherche. Les conclusions, même sur l'année dernière, sont pas encore très nettes. Et là, on a à peine une méthodologie pour regarder ce qui se passe chez les stagiaires. les résultats en termes d'outils et de méthodes sont quand même là plutôt forts. On a des développements théoriques du côté de la jeunesse documentaire. L'idée, j'ai un peu évoqué, de conception dans l'usage. Par exemple, le fait que le formateur tire le parcours dans son académie et puisse le bidouiller, c'était vraiment une proposition très forte qu'on avait depuis l'origine, parce que l'idée que quand on utilise, on finit de concevoir, il faut qu'on ait les moyens d'utiliser. Donc on voit qu'il y a des outils théoriques et derrière l'idée de jeunesse documentaire, il y a celui-là. Le potentiel de transformation d'un parcours, c'est le potentiel de transformation des pratiques d'un enseignant qui est derrière le parcours et qui est décliné. On peut regarder que les transformations des pratiques, c'est pas seulement du point de vue de la discipline ou de sa mise en pratique ou de l'usage des TIS, ça peut être depuis la collaboration entre, ça peut être beaucoup de choses. On a des assistants méthodologiques pour la conception de parcours, pour la mise en œuvre de formation, l'évolution des parcours et des ressources. Et on est même en train de concevoir des outils tels que le journal de bord en ligne pour essayer d'avoir, nous, des informations en tant que chercheurs, mais une trace réflexive de l'activité du formateur quand il prend cette chose-là et comment il en fait une formation. Donc pour nous, c'est problématique, on cherche à comprendre les mécanismes, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir le modéliser et faire des propositions. Et la dernière chose, donc sur le site de eductis.inrp.fr, vous cherchez performance INRP ou performance eductis, et là, chaque année, à l'issue de notre travail, on a fait un rapport que vous pouvez télécharger. Et là, ce rapport, c'est un peu sur le projet de recherche et développement c'est pas une description du dispositif et de la plateforme performance au niveau national, c'est une description de l'activité de l'INRP relative à cet objet-là. J'ai terminé.